La ride parfaite pour retourner à la maison.
Boulevard 102.1.
Soyez prudents, prenez votre bateau, sinon allez-y à la rame. Vous n'avez même pas besoin de véhicule parce que vous allez passer d'une flaque d'eau à une autre. Ça s'est calmé un peu à la Bourgneuf, je ne sais pas, dans votre coin. Nous, ça tombait comme si on nous versait un seau d'eau sur la tête ou on avait ouvert la hose au-dessus de notre tête, là, honnêtement. C'était toute qu'une averse que nous avons eue, puis ça va aller par fragmentation. Là. On a comme fragmenté cette averse-là. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. C'est pas la soirée du barbecue. Tu sais, des fois, il y a une averse en soirée, puis tu te dis, bon, on va ramasser ça pendant 15 minutes, là, ouais, le stock
là, après
à l'extérieur.
Ça, c'est beau, on repart, là.
Mais c'est pas le cas.
Fait que je profiterai pas de ma terrasse ce soir.
Ah, c'est ça. Une autre fois. Et sinon, il faudrait que tu la couvres, mais pas couverte.
Il y a la déception que j'ai dans mon visage.
Puis la... je le vois, le pire, je le sens. Ouais, mais ça vient aussi avec peut-être des petits problèmes sur les réseaux routiers. Mm-hmm. On sait, les roulières, quand elles sont pleines d'eau, ça vient glissant. Y en a-tu des bouchons de circulation, Tom, en ce moment?
Il y a des bons bouchons de circulation en ce moment. Toujours en lien, j'imagine, avec l'accident sur à la hauteur de la rue de la Faune qu'il y avait un petit peu plus tôt. Ça s'est terminé dans les dernières minutes, mais ça reste extrêmement difficile. Là. Entre la capitale, jusqu'à un peu avant la rue de la Faune, c'est difficile en ce moment, donc on est au rouge assez foncé. Sinon, capitale en ouest, un ralentissement entre Laurentienne et Robert Bourassa. Capitale en est, entre Robert Bourassa et Laurentienne, c'est là que ça se passe. Sur Charest, directement entre Henri IV et Robert Bourassa en direction ouest, c'est difficile en ce moment. Et je termine avec la 20 en direction ouest à la hauteur du chemin des îles, on est au rouge. S'il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, c'est par texto, les amis.
C'est 26 degrés et comme nous dirait notre auditeur Jay, outside near the U.S. border, no rain yet. Lui, il pleut pas dans son coin. Il me fascine, cet auditeur-là, parce qu'il nous écrit tout le temps en anglais.
Ouais.
Ça veut dire, je sais pas s'il se pratique. Je sais pas s'il pratique son français en nous écoutant, mais salut, Jay. Tiens, yes. On t'a jamais salué en ondes, c'est fait. Il y a des grosses choses qui se brassent à l'international pendant que tous les yeux sont rivés vers Paris pour une compétition qui se veut chaleureuse. Vous avez entendu notre invité tantôt, David Rioux de Radio-Canada Sport, dire qu'entre protagonistes et sportifs ukrainiens et russes, on a pris le temps de se parler un petit peu. Vous avez entendu aussi que sur une photo, on a retrouvé des athlètes de la Corée du Nord avec des athlètes de la Corée du Sud. Il y a ce genre de phénomène-là, de situation-là durant les Olympiques qui se crée, un genre de fratrie mondiale qui ne reste pas toujours, il faut le dire, mais qui donne un certain souffle à des conflits qui perdurent dans le monde. En ce moment, par contre, il y en a un qui vient d'hausser un petit peu en termes de gravité, puis en termes de problématique. Je dis ça parce que ça va fâcher des gens, puis il va avoir des répercussions, c'est certain. Mais on va aller rejoindre un expert pour nous en parler puis nous faire comprendre un peu jusqu'à coup ça peut aller, ces rebonds-là. Dans les dernières heures, le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, j'espère que je le dis bien, a été tué, en fait, à Téhéran dans une frappe imputée à Israël par le mouvement islamiste palestinien. Et là, l'Iran, qui ont promis de venger sa mort, fait quand même craindre un embrasement de la région en pleine guerre à Gaza. Pour en jaser, on va rejoindre Éric Ouellet, spécialiste de l'armée et des conflits internationaux. Bonjour, Éric.
Bonjour.
Est-ce qu'on a bien décrit, sensiblement la situation en ce moment, cette hausse de tension qui risque de faire beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus de conflits à travers le monde avec la mort du chef du Hamas?
Oui, en fait, ça s'est produit alors qu'il y avait deux événements qui se sont produits avant. Donc, une attaque du Hezbollah qui est basée au Liban qui a tué 12 enfants en Israël, des Druzes. Et il y a eu une réplique israélienne à Beyrouth où on a tué un des commandants du Hezbollah. Puis là, ben, on a la nouvelle que le chef politique du Hamas aurait été assassiné. Donc, il y a en effet beaucoup de montées de tension en quelques jours.
Cette montée de tension-là, est-ce qu'on doit, je veux pas ramener ça à nous, occidentaux, mais ça reste que, est-ce qu'on doit craindre, justement, une fragmentation encore plus importante à travers le monde et probablement des humains qui deviendront encore plus la chair à canon?
Ben, il faut comprendre ce qui s'est passé, c'est dans le contexte du conflit au Moyen-Orient, puis est-ce qu'il va y avoir des débordements ici? Probablement pas plus qu'il y en avait avant. Cependant, il faut quand même penser qu'il y a quand même des risques que le conflit devienne un peu plus régional. Je pense que les risques sont limités, mais ils sont quand même présents en ce moment.
Comment ça peut se calculer, ça, pour la suite des choses? Est-ce que ça va mener, vous pensez, à un arrêt des tensions à un moment donné quand tout le monde va s'être vengé ou ça va juste être une escalade à travers les prochaines semaines?
Non, je pense que c'est très clair que du point de vue de l'Iran, ils doivent sauver la face pour toutes les milices qui supportent, puis les autres gouvernements qui sont plus ou moins alliés avec eux. Donc, c'est une question de prestige international, ils se doivent de répliquer. Mais d'un autre côté, c'est toujours pas dans l'Iran, dans l'intérêt, pardon, de l'Iran de se lancer dans un conflit régional. Les Américains ont été bien clairs qu'ils allaient supporter Israël dans un tel cas. Donc, il va falloir que l'Iran trouve une façon de se revenger, entre guillemets, qui marque des points, mais sans amener Israël à lancer un assaut massif, par exemple, dans le sud du Liban. Donc, il va falloir qu'il soit très prudent dans la façon de répliquer. Et la même chose pour Israël. Donc, c'est possible qu'il y ait une contre-réplique, mais que ça ne doit pas être trop forte pour pas pousser des pays vers un conflit régional. Ce n'est pas dans leur intérêt de le faire en ce moment.
Éric, Israël avait promis d'anéantir le Hamas. C'est pourquoi on n'a pas négocié de cesser le feu. Avec cette mort de leur chef politique, est-ce que le Hamas est anéanti ou il reste encore du travail du côté d'Israël?
D'un point de vue israélien, le travail n'est pas fini. C'est sûr qu'en tuant le chef politique de Hamas, les négociations avec le Hamas vont être plus difficiles parce qu'il va falloir qu'il y ait un successeur. C'est possible qu'il y ait des factions à l'intérieur du Hamas qui se disputent pour qui sera le successeur. D'une part. D'autre part, les forces militaires du Hamas demeurent présentes, même s'ils ont été grandement réduites. Ils continuent à mener une guerre de guérilla. Et il y a encore à Rafah le dernier bastion du Hamas là, que les Israéliens essaient de réduire. Donc, on a encore des conflits en vue et ça va être probablement plus difficile d'avoir une entente là, pour arrêter le conflit. Donc ça, c'est des grands défis qui s'en viennent dans les jours, les semaines à venir.
Est-ce que dans cette succession-là qui risque de se faire, bon, pas naturellement, pas nécessairement fluidement aussi pour la suite des choses, ce sont des gens moins extrémistes qui risquent de prendre la tête de ce mouvement du Hamas ou pas du tout, puis même si on est détruit en partie et que notre chef est décédé, on continue cette guerre-là qu'on avait entamée de façon assez sanglante et sans négociation?
En fait, il y a plusieurs analystes qui considèrent que M. Hanieh était un peu plus modéré que les autres.
Ah. Okay.
Donc, donc il y a des risques que ce soit une faction plus dure qui va se lancer dans une guerre de guérilla éternelle s'ils sont capables de le faire. Et c'est pour ça que c'est très important du point de vue israélien de trouver une sortie de là. Il y a eu des discussions jusqu'à présent d'une force de police ou de force de sécurité qui serait gérée par des Palestiniens modérés. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas, mais Israël doit vraiment trouver une solution à sortir de Gaza parce que ça va tourner ça en guérilla urbaine, puis ils peuvent être pris là pendant très longtemps.
Éric, on regarde l'allié principal d'Israël, c'est les États-Unis. Présentement aux États-Unis, quand on regarde les sondages pour la présidentielle, Donald Trump est en avance et Donald Trump avait vraiment été très dur, autant de façon militaire que de façon politique étrangère avec l'Iran. Est-ce que ça vient jouer dans la balance pour l'Iran? On parle même qu'il serait en train d'essayer là, d'avoir des influences sur l'élection présidentielle américaine de novembre.
Ben, je pense que l'ingérence iranienne dans l'élection américaine va demeurer, peu importe ce qui se passe, mais c'est sûr que pour les Iraniens, si Donald Trump est élu, c'est plus inquiétant. Mais quoi qu'il faut bien clair que même si c'était Mme Harris, c'est le Parti démocrate qui se retrouve à la Maison-Blanche, il n'y a pas beaucoup d'amour non plus là des démocrates envers l'Iran. Donc, ça va être la ligne dure contre l'Iran va demeurer. C'est la seule chose qui peut changer, c'est peut-être la volonté de négocier si l'Iran met un peu d'eau dans son vin. Mais on verra bien si ça va se produire.
Est-ce qu'on est rendu mêlé au sein de ces organisations-là pour la défense du pourquoi ils font la guerre puis c'est violent en ce moment? On est-tu rendu à un point où ils comprennent pas trop, mais que c'est plutôt juste se venger ou essayer d'avoir une tête à l'international?
En fait, c'est un conflit qui est très ancien, hein, le conflit arabe-israélien. Donc, c'est une continuation. Hein. Écoutez, même s'il y a des répliques, là, puis ça tourne à la vendetta,
le fond reste le même.
Ouais. En fait, Israël a fait quelques bons points dans les dernières années. en faisant des alliances, pas des alliances, mais je dirais des ententes avec l'Égypte, la Jordanie, et puis après ça, il y a eu les accords d'Abraham avec le Maroc, les Émirats arabes unis et quelques autres endroits. Donc, tenter de normaliser les relations entre les Arabes et les Israéliens, c'est ça. Si on peut continuer dans ce sens-là, ça va aider beaucoup à diminuer le conflit et peut-être finalement trouver une manière de trouver d'avoir une négociation qui mènerait une solution à deux États qui satisferait tout le monde, évidemment, incluant Israël.
Qu'est-ce que ce serait une solution à deux États, selon vos observations? Parce que c'est rare qu'on entend dire qu'il y aurait peut-être un cessez-le-feu à un moment donné dans cette guerre-là.
Ben, il va en avoir un éventuellement parce que Israël peut pas continuer là, à avoir des forces impliquées dans un conflit de façon permanente. Mais il faut que le Hamas soit vraiment réduit à un niveau d'activité faible, d'une part, et d'autre part, qu'il y ait une solution de rechange. Donc, une nouvelle autorité palestinienne quelconque ou un consortium de pays arabes acceptable pour Israël ou même de la communauté internationale pour assurer la sécurité dans Gaza. Et de là, on peut être certain que Gaza ne sera pas utilisé pour des attaques terroristes contre Israël. C'est parce qu'au fond, Israël, c'est ça qu'ils veulent, c'est avoir la sécurité, ne pas se faire attaquer à partir de Gaza.
Éric, ça ne peut pas être à court terme, cependant, parce que je regarde d'autres conflits qu'il y a eu là, dans l'histoire. L'Irak, ça a pris énormément de temps avant justement qu'un second gouvernement après Saddam Hussein réussisse à s'établir, même principe en Afghanistan. Donc, cette solution-là, deux États, c'est plus à moyen long terme?
Oh oui, c'est une solution à long terme, mais ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que c'est la seule véritable solution qui peut devenir permanente.
Mm-hmm, en effet.
Mais on en a pour plusieurs années. Il va falloir qu'il y ait une bonne gouvernance de qualité à Gaza. On est encore loin de cette première étape.
On est presque rendu à un an du conflit. Il y a encore des otages qui sont la propriété présentement du Hamas suite à l'attaque du 7 octobre. Est-ce qu'on peut avoir encore confiance de les retrouver vivants ou là, avec tout ce qui se produit, la mort du chef politique du Hamas, ces otages-là, on fait une croix malheureusement sur eux?
Bien, le gouvernement israélien n'a pas dit ça de façon très claire, mais bon, si on suit les actualités là-bas, c'est assez clair que le gouvernement va essayer de sauver ceux qui peuvent, mais qui vont pas se... faire des concessions majeures pour sauver les otages. Mm-hmm. Ça, c'est assez clair. Je pense que M. Netanyahou a donné le ton là-dessus, même s'il ne l'a pas dit clairement.
Merci beaucoup, Éric Ouellet, spécialiste de l'armée et des conflits internationaux. C'est un plaisir de parler avec toi à chaque fois.
Merci et à la prochaine.
Salut. On lui parlait parce que le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, tu sais, à un moment donné, c'est dur. J'espère que je le prononce bien. Là.
Mais
le
je te chef... le souhaite, mais moi, si tu ne le prononces pas bien, t'es pardonné, sache-le.
Voilà. C'est le chef du Hamas qui a été tué, en fait, à Téhéran dans une frappe qui a été imputée à Israël. Et ça, c'est dans le mouvement islamiste palestinien. L'Iran a promis de venger sa mort. Ça fait craindre un embrasement dans la région en pleine guerre à Gaza. On est loin d'en avoir terminé avec tout ça. Puis, tu sais, il faut le dire, là, la bande de Gaza, c'est en ce moment meurtri. C'est dévasté.
C'est détruit.
C'est détruit. Ça fait 10 mois. La population qui a été prise en otage par le Hamas, tout simplement. Puis ça a été de la chair à canon. On les a même nous-mêmes utilisés comme, de la part du Hamas, là, comme bouclier humain, en se cachant à travers des hôpitaux et autres, parmi la population. C'est d'une catastrophe et d'une tragédie rarement vue.
Oui, parce que on parle régulièrement à Eric le matin dans Rage Against ce matin, puis on lui a parlé justement des stratégies défensives du Hamas et ça fait vraiment partie de leur stratégie défensive de mettre des civils à l'avant-plan puis de se cacher dans des endroits publics.
Comme pour, des hôpitaux, des écoles.
Exactement, pour par la suite lancer cette faute-là sur Israël en disant « Hey, ils ont attaqué des hôpitaux, ils ont attaqué des écoles. » Alors, c'est clairement une stratégie de la part du Hamas.
On s'entend-tu que l'éthique et la morale du côté du Hamas, c'est moi, je les qualifie comme étant pire qu'un autre pays qui s'attaque, mais ça devait tellement être déchirant de savoir que t'attaques un hôpital à ce moment-là ou une école, sachant qu'il y a des civils, mais que tu n'as pas le choix parce que sinon tu les laisses gagner. Tout ce qui est guerre faite de cette façon froide et inhumaine-là, il doit y avoir des gens qui psychologiquement là, sont dévastés pour le reste de leur jour. Imagine, là, tu as un soldat qui doit attaquer un hôpital ou une école, sachant qu'il va aller tuer plein d'enfants. Il y a quelque chose qui est démesuré dans la guerre qu'on voit actuellement, qui me rappelle les années dégueulasse là, de la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, puis même qui rappelle le conflit au Rwanda aussi.
Ah, ça, écoute, on est ailleurs.
Les casques
là.
Bleus ont été complètement meurtris mentalement.
Et j'ai dépassés.
Oui, j'ai déjà parlé avec un militaire qui avait été obligé de tuer un enfant militaire parce que c'est lui qui est passé en Afghanistan.
Mais
il n'est plus jamais redevenu le même. Tu reviens chez vous, tu as tes deux kids.
Pis c'était toi ou lui à ce moment-là.
Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il dit c'est un réflexe. Ben, il dit d'un, il dit t'es entraîné pour ça. Fait que, oups, tu vois l'arme pointer sur toi.
Mais non.
Puis, tu sais, quand je suis rentré à la maison, ma fille de 9 ans, mon gars de 7 ans, puis moi, je viens d'en tuer un peut-être de 11 ans. Tu sais, il dit j'ai plus jamais le cas de retourner en mission.
Heureusement, on a déstigmatisé beaucoup les soins pour la santé mentale auprès des militaires, auprès des services d'urgence, auprès de... Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis j'avais lu un livre dans le temps qui s'appelle « Moi, soldat ». Puis si vous n'aimez pas lire, là, ça reste vraiment facile parce que c'est des portraits. Ah, on prend, mettons, Jeff Fortin, puis c'est quelques pages sur ton histoire à toi de militaire. C'est les éditions de l'Homme qui avaient fait ça. Mm-hmm. C'est encore d'actualité. Puis on était dans ce changement-là de cap par rapport à la santé mentale. Je vous le conseille. C'est fascinant.
Oui. Puis souvent, ces blessures-là sont créées, mais tu es dans un laps de temps quand même éloigné de l'événement. Mm-hmm. Tu sais, ce militaire-là avec qui j'avais parlé, c'était ça. T'es du... Moi, après ça, j'ai continué ma mission. Puis go, ça avait été fait. T'es sous l'adrénaline. Tu es là pour encore 2 mois. Et c'est quand je suis arrivé à la maison que j'ai fait « Hey, my God, j'ai vraiment fait ça. » Puis là, ben, c'est là que tu t'es
formé. Puis envoyer tes enfants, puis tout ça.
Ben oui.
Non, c'est très particulier. Très particulier. Dire qu'en 2024, on est encore dans des conflits qui brassent comme ça, puis on est loin d'en avoir fini avec ça. Fragmentation totale en ce moment. Niveau géopolitique là, dans le monde, là, si vous mettez à lire, vous allez voir que le monde va changer dans les prochaines années. Puis on n'en parle pas assez.
Ouais.
Mais qui sera la puissance mondiale? Puis là, tu as tout le temps le niveau économique, tu as tout le temps le niveau social, tu as tout le temps le niveau de pouvoir X. Mm-hmm. Puis tu sais, on jasait cette semaine, les trois ensemble, sur les Olympiques. En ce moment, pour les médailles, c'est intéressant de voir que les États-Unis sont encore à la tête en termes de nombre. Là. On est à une trentaine pour les États-Unis. Puis je me demande si, par certaines phrases, qu'on a encore un manque de puissance dans les conversations diplomatiques à travers les dernières années. Une image qui a été entachée, veut pas. Les Chinois qui sont allés espionner aux États-Unis, qui étaient dans l'hydroélectricité depuis des années puis ils s'étaient pas rendus compte de ça. Il y a comme une course au pouvoir. Puis probablement, honnêtement, là, que ça se répercute aux Jeux olympiques sans qu'on le sache. Là. Deuxième Guerre mondiale, aller là-dessus, c'est super pertinent à quel point, ben, justement, c'était une course aussi à la compétitivité et non nécessairement sportive, mais plus gouvernementale.
Sous Adolf Hitler, on a reçu les Jeux olympiques en Allemagne.
Ben pourquoi?
Pour
avoir l'air du pays en puissance dans l'accueil de
Exactement.
Ci et de ça. On a eu un grand débat par rapport à ce qu'on accepte les athlètes russes. Est-ce que c'est un portrait qu'on veut justement porter sur les Jeux olympiques de Paris 2024? En même temps, on fait une dissociation entre un athlète et les choix du pays.
Tu sais, tout à l'heure, David Rioux nous a parlé des Jeux d'hiver à Sochi, où il a fallu construire une ville hivernale parce qu'il n'y avait pas d'hiver. Mais ça, la Russie voulait montrer sa puissance avec ça. Regardez qu'est-ce qu'on est capable de faire. On est capable d'accueillir des Jeux olympiques d'hiver dans une place qui n'est même pas l'hiver. Puis regardez tout ce qu'on construit, regardez la richesse qu'on a.
Et pourtant, ça crée des problèmes sociétaux immenses. Ça crée de la pauvreté. Ça crée... Non, c'était pas drôle, là. Sochi. Il y a encore des impacts de tout ça.
Clairement.
On pourra en parler avec David Rioux un jour, si jamais. Mais c'est ça. Les États-Unis sont en tête. 30 médailles au total. Ils ne sont pas en tête des médailles d'or.
C'est la Chine.
C'est la Chine. Puis c'est pour ça que je vous dis qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Ben là, il faut que je parte en pause parce que là, je...
Parce que tu vas te mettre à parler de la Chine trop longtemps.
On est encore là à 18h30. mais ça va
elle s'est arrêtée. C'est malade.
Elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée en mentionnant le mot Chine. Je pensais pas que ça pouvait arriver.
Merci les gars.
C'est le piton.
The Killers, All These Things That I've Done. Thomas Gauthier, Jeff Fortin, moi-même, Pascal Cévé.